Salut Daniel, c'est Jérôme. Là, il est 7h10, je viens de me lever comme tous les matins en mettant France Inter. Et là, il y en a ras-le-bol, quoi. Il y en a ras-le-bol de la pub, et surtout cette pub pour une société d'assurance que je n'aimerais pas.
Sylvie a un petit problème. Faire comprendre à son fils que le klaxon de sa voiture n'est pas vraiment un jouet.
On nous balance un klaxon à fond les gros lots dès le matin. Je dis, non, non, faut arrêter les conneries, les gars. Faut arrêter les conneries, quoi. Il y en a marre, quoi. Allez, bonne journée quand même. Mais moi, ça commence mal, quoi. Ciao.
Bonjour Daniel. Bravo pour ton émission riche en enseignement et en pédagogie. Très, très lucide. Nous espérons que beaucoup de gens ont entendu cette émission qui est rare dans le paysage audiovisuel actuel et qui prévient contre toutes les formes de manipulation et d'instrumentalisation. Méfions-nous de toutes les formes d'extrémisme et de tous ceux qui cherchent à diviser les citoyens, à les manipuler pour asseoir leur pouvoir. Il est essentiel d'être solidaire pour faire échouer les extrémistes de tout poil. Nous espérons entre guillemets la contagion de cette prise de conscience que vous souhaitez vous et votre équipe. Encore une fois, bravo et merci. C'est Malika et son mari Alain de Paris.
Oui, bonsoir, c'est Hamid de Genève. Je voudrais réagir sur l'émission de ce soir à propos de l'antisémitisme. J'ai trouvé très intéressante l'analyse de Dominique Vidal. Et à ce propos, je voudrais lancer un appel à toutes les associations et musulmanes de France pour faire vraiment un travail pédagogique auprès des jeunes, pour cesser de voir partout des juifs et que s'ils ont des problèmes, c'est qu'ils doivent les régler eux-mêmes. Et c'est pas parce qu'il y a un Ariel Sharon que tous les juifs sont des tyrans ou sont des barbares. Il faut arrêter avec ça. Les juifs ont souffert dans l'histoire et ça, il faut jamais le nier. Et c'est à nous, musulmans, déjà, on doit donner l'exemple pour combattre tous les racismes et tous les antisémitismes, comme ça pour montrer au monde que les musulmans ne sont pas des poseurs de bombes. Et voilà.
Oui, bonsoir Mermet, je t'appelle pour te dire que l'émission d'hier soir était un véritable scandale. Parvenir à faire passer l'antisémitisme actuel pour une manipulation des sionistes et des israéliens ou des juifs de France, ça me paraît une aberration totale. Quant à faire passer l'enseignement de la Shoah et en faire un parallèle avec l'histoire coloniale, la guerre d'Algérie, etc., ça me paraît une honte. Donc cette émission était honteuse, n'a absolument pas traité de l'antisémitisme comme il était indiqué. Et comme d'habitude, c'est une pure manipulation idéologique. À bientôt.
Merci pour cette passionnante émission avec Dominique Vidal, très claire, très nuancée, très pédagogique. J'appelle pour témoigner, je suis professeur en lycée technique avec beaucoup de garçons d'origine pas très favorisée. Et j'avoue que je les sens très sensibles à la lutte contre l'antisémitisme, très à l'écoute de tout ce qu'on peut faire sur la Shoah ou autour des écrivains juifs de France ou la résistance ou de la lutte contre l'antisémitisme. Et par contre, je sens quand même un racisme anti-musulman extrêmement fort, avec des termes très violents qui viennent dans leur conversation comme si de rien n'était. Et on retrouve des termes comme les bougnoules, les crouilles, des mots que moi-même je n'avais jamais entendus. Et là-dessus, on ne fait rien. Il n'y a rien dans les programmes scolaires, il n'y a pas de prise en compte dans les médias. Et je trouve ça assez inquiétant. Effectivement, un manque d'éducation sur ce point-là.
C'est toujours pareil dans votre émission. Et ce monsieur du monde diplomatique, moi je veux bien le croire, mais je veux bien croire aussi monsieur Finkielkraut. Il n'y a jamais de débat chez vous. C'est toujours un personnage qui parle, qui parle, qui parle. Et puis moi j'aimerais qu'on parle autrement que la communauté musulmane, la communauté chrétienne, la communauté juive, la communauté machin truc. Il faut dire ce qu'il faut dire, ce sont des Français, ils sont tous Français maintenant. Hein. Bon, et puis voilà, salut.
Voilà, ils sont tous Français maintenant. Ben, c'est un peu le thème du livre d'Esther Benbassa, La République face à ses minorités. On va en parler quelques instants avec Esther Benbassa de ce livre, mais elle sera ce soir l'invitée de notre excellente consoeur Kathleen Evin à 20h sur France Inter, où Esther aura le temps de vous expliquer pas mal de choses. C'est une voix différente de celle celle de Dominique Vidal qu'on a entendu hier, une voix cousine, disons, et surtout qu'on entendra jeudi 13 mai au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne de 9h à 18h15 et à l'Institut du Monde Arabe de 20h30. À 22h30, alors on dit, ça sera peut-être un peu long pour une seule voix, mais Esther Benbassa ne sera pas seule. C'est toute une journée, juifs et musulmans, une histoire partagée, un dialogue à construire. On en a parlé hier et ce sera donc ce jeudi prochain. C'est tout est dans le titre, une histoire partagée, un dialogue à construire. À côté de cette journée, donc le livre d'Esther Benbassa, La République face à ses minorités, et c'est un texte très très intéressant qui fait suite tout à fait à ce que dit cette auditrice. Oui, ils sont français, voilà, mais ça s'est pas passé facilement, et ça ne se passe pas si facilement concernant La République face à ses minorités. Et Esther Benbassa, je rappelle qu'elle est historienne. Et qu'elle est directrice d'études à l'école pratique d'hautes études et qu'elle a écrit pas mal de bouquins, souvent avec Jean-Christophe Attias. Et elle fait un parallèle tout à fait passionnant entre l'époque de l'intégration des Juifs et aujourd'hui l'intégration des musulmans. Et elle, à deux siècles d'écart, elle fait le rapprochement entre Napoléon et Nicolas Sarkozy. Il y a peut-être un petit air de ressemblance. Effectivement, quand Napoléon organisait le culte juif et s'érigeait en nouveau Moïse, alors qu'aujourd'hui Nicolas Sarkozy crée le Conseil français du culte musulman et va en Égypte pour solliciter la bénédiction de l'imam d'Al-Azhar pour le projet de loi anti-voile. C'est des sujets sensibles, c'est des sujets qui fâchent, mais on a vu que non, pas tant que ça finalement, suite à vos explications que Dominique Vidal nous a données hier, l'analyse, l'exposé qu'il nous a fait, qui fait suite, je le rappelle, à au papier qu'il a signé dans le Monde diplomatique de ce mois de mai. À propos du Monde diplomatique, on va passer le reste de l'heure avec le Monde diplo, mais le Monde diplomatique en fait, puisque, vous le savez, samedi dernier, on a fêté le 50e anniversaire de la création de ce journal, et ça a été une fête. Ça a été aussi toute une série d'intellectuels, d'observateurs, d'écrivains du monde entier qui sont venus, et on va en retrouver un certain nombre aujourd'hui dans l'émission, dans la base si j'y suis. Mais auparavant, Esther Benbassa, autour de ce livre et autour de ces deux groupes qui, dans leur intégration dans la République, sous les ailes et le giron de la République, et les difficultés que les uns et les autres peuvent rencontrer. Esther Benbassa.
C'est un texte citoyen, mais d'une historienne qui regarde les deux groupes et essaye de tirer quelques conclusions. Il me semble que la République a toujours eu quelques problèmes à l'endroit de ses minorités, surtout ses minorités juives et musulmanes, donc deux monothéismes, parce que l'universalisme français est resté et reste encore imprégné par le christianisme. Une vision qui voyait les juifs comme obscurantistes, même les hommes de lumière, je dis les hommes puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de femmes des lumières, et qui avaient eu des préjugés sur les juifs pour combattre le christianisme. Ils passaient par le combat contre le judaïsme, les rabbins obscurantistes qui les menaient à la faillite, qui les empêchaient de s'intégrer dans la société. Aujourd'hui, on entend les mêmes mots pour l'islam, voilà, l'islam fondamentaliste. Maintenant, c'est ajouté la dimension terroriste. Tous les musulmans sont suspectés d'être terroristes, obscurantistes, etc. il y a des parallèles. Moi, j'ai essayé de lire le texte de l'abbé Grégoire, qui est le texte fondateur qui a servi quand même au promoteur de l'émancipation, donc l'octroi de la citoyenneté aux Juifs au XVIIIe siècle.
L'abbé Grégoire voulait régénérer.
Et on met aujourd'hui entre guillemets, mais il voulait régénérer. Ça s'appelait, le texte s'appelait régénération physique, morale, etc. des Juifs. Et aujourd'hui, quand on lit le texte qui a précédé le vote de la loi contre le port de signes religieux, mais enfin contre le port quand
oui,
même,
oui, on voit qui est visé, bon, on voit ce qui est
soyons
visé.
Clairs, ce sont les mêmes mots. Maintenant, le nouvel alibi, c'est régénérer les musulmans en émancipant les femmes. Parce qu'on pense qu'en leur enlevant le voile, on va les émanciper. Écoutez, moi, je préfère que... Je n'ai pas de préférence, vous savez, je ne suis ni pour ni contre les voiles. Je me dis qu'on n'a jamais réglé les problèmes de cette façon-là et que les jeunes filles, il vaut mieux qu'elles aient une éducation, une instruction et qu'elles sortent après sans voile, enfin qu'elles aient enlevé leur voile si elles le souhaitent et qu'on ne va pas régénérer, entre guillemets, les musulmans en enlevant le voile. Il y a vraiment des parallélismes. On n'arrive pas, même la laïcité, notre laïcité est chrétienne. D'ailleurs, elle s'est érigée, chez certains, en religion stricte, le laïcisme. Hein, nous sommes dans la religion du laïcisme. Tandis que les promoteurs de la laïcité au début du XXe siècle l'avaient adaptée. Avec le respect des autres religions. Et aujourd'hui, on est dans les extrêmes là aussi, parce que la plupart des valeurs de la République ayant faibli, ce qui explique aussi d'ailleurs en partie le communautarisme, puisque on pense retrouver la liberté, l'égalité, la fraternité dans son groupe. On crée des sociétés, des communautés imaginaires où il n'y a pas plus de liberté, d'égalité ou de fraternité qu'à l'extérieur. Mais on l'imagine et c'est intéressant de suivre quand même cette évolution aujourd'hui, vraiment dans cet excès de laïcisme. Et nous sommes en train de braquer les groupes et de restructurer le communautarisme, qui est, comme je vous l'ai dit, transfrontalier et qui est bien plus fort que le communautarisme national. Hein, limité à la nation. Alors peut-être que nos pouvoirs publics ont eu un petit retard et ils se disaient que la laïcité allait rassembler beaucoup de Français. Ça a rassemblé beaucoup de Français, mais pas tous les Français. Et nous attendons d'ailleurs avec un peu de peur l'application de la loi en septembre dans les écoles, puisque comme vous le savez, la loi fait quelques lignes et la circulaire 10 pages. Je souhaite bonne chance aux chefs d'établissement et aux enseignants. C'est vrai aussi qu'il faut reconnaître qu'on les a laissés dans la difficulté longtemps, mais notre identité française est aussi aujourd'hui mise en question. Face à l'Europe, à la grande Europe aujourd'hui élargie depuis le 1er mai, face à la mondialisation, ce sont des peurs qui se greffent. La France recherche son identité.
Voilà, le diplôme à 50 ans, c'était samedi au Palais des Sports à Paris, une grande fête qui a duré tout l'après-midi jusque tard dans la soirée, et on va retrouver des échos, des moments de cette fête et des intervenants. Il y avait tout un plateau d'intello, d'acteurs, du social, du monde entier qui étaient présents et des groupes. Alors José Bové, Evo Morales, le groupe Jolimot, Jacques Derrida, Tony Negri, Rémo Aubrac, Bernard Lubat, Étienne Balibar, Régis Debray, La Rumeur, un groupe passionnant, Gnawa. Voilà, j'espère qu'on aura le temps d'ici à 18h de les entendre tous pour ce 50e anniversaire du monde diplomatique dont le thème était Voix de la Résistance.
La masse détresse dans sa tête, frise des phrases toutes faites. Des phrases qui frottent et se fracassent en masse dans ma tête. Une tête bien faite, frise des phrases en frôlant l'hypnose. Alors je dose et pose ma prose sur le fil d'un funambule qui avance, qui recule, un peu mule, un peu docile. Alors bloque le style, papy, Rasta tranquille. Entre gros et dégueulasse, entre amateurs de bouffias, on parle de liasses et de fesses. En soi qu'on fait son espèce, sans jamais perdre pièce. De la menu monnaie qu'on aime à mourir d'angoisse. Plus de serpents qu'au Sahel, là c'est ici que ça se passe. Plus de putes qu'au bordel, plus grand qu'un hôtel de passe. Oui c'est la métropole qui prostitue la populace et lui fait boire la tasse de la métropollution. La métropole avec la métropopulation. Oui dans la métropole avec la métropopulation. Les chemins de l'emploi sont truffés de virages. Et c'est ce qui donne à certains la gerbe des pâturages. La terre était brûlante avant qu'on invente le carrelage. La terre s'est réchauffée depuis qu'existe le pavé. Certains détournent les budgets, d'autres font les étalages. Dans les bandits buildings, il y a des caves et des étages. En bas le planton, en haut la cabine de pilotage de l'aviateur qui ne vole pas haut mais vole sur tout l'entourage. Dans la métropole, il vole la métropopulation. Oui, dans la métropole, il vole population. Dans la métropole, il vole la métropopulation. Puis dans la métropole, aye. Oui c'est le static sans statut qui donne pas statistique. Le chômage est une course qui influe sur la bourse. C'est un job mal payé qui donne mal à l'œsophage. Qui donne des fous des lentes qui ressemble à la mort lente. Une odyssée alimentaire terre à terre, à digestion permanente. Dans la métropole avec la métropopulation. Dans la métropole avec la métropopulation. Oui, dans la métropole.
Du monde et du beau monde pour le monde Diplo qui fêtait ses 50 ans samedi au Palais des Sports de la Porte de Versailles. Je l'ai dit, beaucoup d'invités. Et ça allait de Naomi Klein à Aminata Traoré, Gadi Al-Ghazi, Leïla Chahid, enfin beaucoup de monde. On va en retrouver certains. Le thème de la journée, c'était Voix de la Résistance. Et donc la question tout simple était: à quoi résistez-vous? José, on va commencer avec toi. On est pour cette célébration du 50e anniversaire de la création du monde diplomatique. Et l'argument, c'est les voix de la résistance. Alors évidemment, tu es là comme voix de la résistance. Moi, j'ai une seule question à te poser. Contre quoi tu luttes aujourd'hui? Qu'est-ce qui te révolte le plus aujourd'hui?
Je crois que ce qui me révolte le plus aujourd'hui, c'est de savoir que près de 60% des habitants de cette planète sont des paysans et que la logique aujourd'hui du marché mondial, la logique de l'OMC, la logique des multinationales avec les OGM est en train de fracasser la capacité de toutes ces personnes de pouvoir vivre sur cette planète. On est en train de créer un véritable cataclysme au niveau international sans absolument avoir de solution. C'est-à-dire que si les paysans sont chassés de leurs terres comme c'est en train de se faire, on va créer des villes de 50 millions, 100 millions d'habitants. Aujourd'hui, absolument aucun urbaniste, personne qui n'est en capacité de régler cette situation. Donc aujourd'hui, on va droit dans le mur, uniquement pour la volonté de quelques-uns, de quelques multinationales, de quelques pays les plus riches, les États-Unis, l'Union européenne, de vouloir garder le pouvoir sur cette planète. C'est quelque chose qui est absolument insupportable. Il y a quelques jours, j'étais avec des paysans polonais, des paysans qui venaient aussi de Biélorussie. J'étais avec des paysans roumains, tchèques. Aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de vivre est absolument catastrophique. Il est clair que ce que l'Union européenne va faire en 5 ans, l'Union soviétique n'a pas été capable de le faire en 40 ans. C'est quelque chose d'absolument invraisemblable. 38% de la population polonaise est composée de paysans. Aujourd'hui, ces paysans sont liquidés au nom de l'Union européenne dans le cadre de cet élargissement. Je reviens de Roumanie où j'ai passé quelques jours. Aujourd'hui, on voit des grands industriels français, italiens, en train d'accaparer toutes les terres. On voit des industriels américains, allemands, en train d'implanter des véritables usines productivistes. J'ai même vu, à côté de Timisoara, des gens en train de me dire très sérieusement, on va mettre des serres comme dans le sud de l'Andalousie. c'est quelque chose qui n'a absolument à voir avec rien du tout. Ça veut dire que ces paysans vont être liquidés purement et simplement, et qu'ils vont venir grossir les rangs des chômeurs qui existent déjà de manière massive dans ces pays. Sauf que comme il fait froid, ces gens-là n'ont qu'une seule solution, c'est essayer de partir. Et on voit déjà des autobus qui viennent régulièrement dans le sud de la France, en Espagne, en Italie, de gens qui essayent de venir gagner 3 sous pour pouvoir faire vivre leur famille. C'est un cauchemar. Donc il y a une situation dramatique au niveau social, dramatique au niveau économique. Et aujourd'hui, l'Europe est en train de sacrifier complètement ces pays uniquement dans une logique de libre-échange. Alors là, je suis avec Evo Morales. Evo Morales qui est le leader du MAS, une coalition politique qui s'est mise en place en Bolivie pour résister face au gouvernement néolibéral et qui a déjà organisé des combats extraordinaires puisqu'il était à l'initiative à Cochabamba, une partie de la Bolivie, de la lutte contre une multinationale qui voulait accaparer la gestion de l'eau. Grâce à ce combat, ils ont gagné. Evo est le représentant des petits paysans, des indigènes, planteurs de coca. Et donc ils ont mené ce combat et depuis ils ont élargi ce combat en s'alliant avec les syndicats ouvriers, avec le COB, le syndicat des mineurs boliviens. Et c'est eux qui ont organisé le blocage il y a quelques mois de la Bolivie parce que la Bolivie voulait vendre son gaz à des multinationales américaines. Cette action de blocage de tout le pays a entraîné la fuite du président bolivien qui est parti en avion à Miami. Et aujourd'hui, le combat continue là-bas et il y a des élections municipales qui vont avoir lieu au mois de décembre en Bolivie. Et aujourd'hui, le mouvement de plus en plus large qui se regroupe autour d'Evo va certainement gagner ces élections.
Evo, bonjour. J'ai une seule question à vous poser. Aujourd'hui, on fête le 50e anniversaire de la création du monde diplomatique. Le thème, c'est la résistance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous révolte le plus? À quoi vous résistez?
Bueno, nuestra lucha fundamentalmente es contra la injusticia y contra la desigualdad.
Notre lutte, c'est surtout contre la justice et contre les inégalités.
En Bolivia y Latinoamérica, la aplicación del neoliberalismo no ha sido ninguna solución para las mayorías de nuestros pueblos.
En Bolivia, como en América Latina, la aplicación de la doctrina del neoliberalismo no era ninguna solución para la mayoría de nuestro pueblo.
Los más víctimas que hemos sido son gente pobre, campesinos, obreros, especialmente los pueblos indígenas, pequeños productores.
Les principales víctimas son los trabajadores, son los paysans, son las minorités, son los indígenas.
El movimiento indígena está defendiendo la democracia frente a la agresión y provocación del imperio.
Le mouvement indigène ou antienne est en train de se défendre et de lutter contre ces agressions de l'Empire.
Mais je veux dénoncer le suivant. Quand les démocraties ya no le sirven à l'Empire, l'Empire gesta golpes de Estado pour descabezar les mouvements sociaux.
C'est ce que je veux dénoncer, c'est ceci. Lorsque les démocraties ne sont plus au service de l'Empire, l'Empire fabrique des putsch pour qu'il remette la situation à sa faveur.
Vous avez l'habitude en Amérique latine.
Si. Et pour eso ahora, los dueños de esa noble tierra, que son los pueblos indígenas, que hechos aymaras guaraníes, decidimos recuperar el poder político para recuperar el territorio.
Oui, et c'est pour ça que maintenant, nous, de la lutte des anciens et d'autres, on a décidé de prendre le pouvoir politique pour remettre les choses en ordre.
Nuestra propuesta fundamentalmente es recuperar la propiedad de los hidrocarburos, uno.
Notre proposition c'est de d'abord récupérer les propriétés des hydrocarbures.
Dos, la asamblea constituyente que es la refundación del país para cambiar el sistema político.
Deux, la refundación du pays par une nouvelle constituante.
Y el cambio del modelo económico.
Et le changement du modèle économique.
Y eso lo molesta la embajada y además lo molesta también el crecimiento del MAS y por eso provocaciones desde el imperio para acabar con la democracia.
Y todo eso, ça dérange le sistema, ça dérange aussi l'Empire, que font des actions pour en finir avec la démocratie.
Quatre nouveaux cas de vaches folles en France. Deux de ces cas ont été détectés dans le département.
Ce soir, on en sait un peu plus sur les conditions mêmes du naufrage. Le navire a d'abord sauté du navire.
Pourtant, on reconnaît qu'ils ont tous été exposés à de l'uranium appauvri durant leur mission.
Jean-Pierre, alors on prépare la paix et vous avez une vache à la bourse.
Visite de Vladimir Poutine en France. Le président russe a rencontré aujourd'hui une délégation de patrons.
Pendant ce temps-là, ça va sonner à Washington. Pendant ce temps-là, y'en a qui veulent changer la donne. Pendant ce temps-là, ça va sonner à Washington. Pendant ce temps-là, y'en a qui veulent changer la donne. En Russie c'est la liberté, on trouve des putes et du coca. L'espérance de vie a chuté, sous la magouille et la mafia. Le FMI a triomphé, au nom de la démocratie. Le rideau de fer est tombé, sur les pieds de la Tchétchénie. Pendant ce temps-là, ça bastonne à Washington. Pendant ce temps-là, y'en a qui veulent changer la donne. Pendant ce temps-là, ça bastonne à Washington. Pendant ce temps-là, y'en a qui veulent changer la donne. On privatise au jour le jour, dans une économie nouvelle. La spéculation s'avance-sous, on fait de l'argent virtuel. Si à la bourse on fait la fête, à New York, Tokyo et Paris, on fait la diète en Éthiopie, devant trois caisses de mitraillettes. Pendant ce temps-là, ça va sonner à Washington. Pendant ce temps-là, y'en a qui veulent changer la donne. Pendant ce temps-là, ça va sonner à Washington. Pendant ce temps-là, y'en a qui veulent changer la donne.
J'ai qu'une question. Qu'est-ce qui vous révolte en ce moment ?
Principalement que 86% des richesses appartiennent à 20% de la population mondiale, qu'il y a 30 000 enfants qui meurent de faim tous les jours.
Joli môme.
Qu'on s'en prend dans notre pays, évidemment, on le sait bien, principalement aux plus faibles. À commencer par les chômeurs, ceux qui n'ont pas de logement, ceux qui n'ont pas d'emploi, donc. Et après, on s'en prend à toutes les petites catégories qui ne servent pas à grand-chose, comme les artistes et les techniciens du spectacle. Et on va s'en prendre, comme on s'en est pris déjà, l'ensemble de la population sur les retraites, on va s'en prendre à la sécurité sociale, ça c'est notre pays. Mais on n'oublie pas surtout ce qui se passe dans le monde et que la majorité de la population mondiale vit dans des conditions déplorables, alors qu'une toute petite partie vit dans des conditions relativement confortables. Et on trouve pas ça normal parce qu'on pense qu'on est avant tout des êtres humains avant d'être des Français.
Alors, quelle résistance ?
Quelle résistance ?
Alors joli bon, il y a une résistance là, hein, ça fait un bout de temps que ça dure quand même. C'est chanté, c'est des spectacles, c'est dans la rue, c'est des chansons populaires.
Oui, puis on essaye aussi de vivre la justice entre nous, d'être à salaire égal, d'être en autogestion.
Combien ?
On est un noyau de 11 à 12 personnes et puis on arrive à être une vingtaine par moment. Notre résistance, c'est d'essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple, comme disait Jacques Prévert. Voilà.
Et c'était le cas samedi au Palais des Sports à Paris, où le monde diplomatique fêtait ses 50 ans. Les voix de la résistance, beaucoup de groupes musicaux, d'artistes, et puis un certain nombre d'intellectuels, dont Jacques Derrida. Jacques Derrida est sans doute une des figures intellectuelles les plus célèbres, sinon en France, au moins aux États-Unis. Bien, il est tout à fait français. Il est professeur à l'École des Hautes Études en sciences sociales. Il a écrit 80 bouquins, ça semble assez énorme. Et il était là ce samedi après-midi au Palais des Sports pour cet anniversaire.
Ça n'est pas une seule question, c'est 1000 questions. Beaucoup de choses me révoltent aujourd'hui, mais en particulier, pour aller au plus court, ce qui, d'une part, viole le droit international, toutes les défaillances des institutions internationales à l'initiative desquelles je crois, n'est-ce pas ? Mais tout ce qui empêche, par exemple, des institutions comme l'ONU de jouer son rôle parce que elle ne dispose pas des forces nécessaires pour cela, qu'elle doit par conséquent se plier aux volontés ou aux intérêts de la puissance américaine. Et cela conditionne tout un paysage géopolitique. Eh bien, ce que je regrette, c'est cette hégémonie à laquelle l'Europe, une Europe qui ne s'est pas encore faite, et dont le modèle, pour l'instant, m'inquiète plutôt, que cette Europe dont je rêve, qui pourrait faire contrepoids à cette hégémonie, ne soit pas encore prête. Donc c'est un plaidoyer pour une certaine Europe, qui, justement à cause de son histoire, de sa mémoire des Lumières, et aussi de sa culpabilité assumée, de sa mauvaise conscience après le stalinisme, le nazisme, les génocides, le colonialisme, à cause justement de cette prise de conscience coupable, l'Europe est capable de s'opposer à la fois à l'hégémonie américaine, à la montée en puissance de la Chine, avec laquelle il faut compter, et aux théocraties arabo-musulmanes. Donc c'était un plaidoyer pour une Europe. Alors je suis parti du fait que le monde diplomatique a été créé en France et son ancrage dans la langue française dans l'Europe pour que le monde diplomatique, qui est irremplaçable dans le monde, qui ne serait possible dans aucun autre continent et aucun autre régime au monde, que le monde diplomatique œuvre pour une Europe capable de jouer le rôle que je viens de rappeler.
Vous considérez comme un altermondialiste ?
Absolument. Tout le petit discours que je viens de faire allait dans ce sens. Vous savez, bien avant que le mot n'existât, j'ai publié dans Spectre de Marx des propositions qui allaient dans ce sens, c'est-à-dire ce que j'appelais une nouvelle internationale, alliant au-delà même du cosmopolitisme, c'est pas qui suppose toujours l'autorité de l'État et la citoyenneté, au-delà de la citoyenneté, au-delà du cosmopolitisme, une nouvelle internationale qui rassemble tous ceux qui, dans le monde, sont opprimés, souffrent de cette globalisation néolibérale, disons, pour le dire vite, et qui ont des affinités entre eux, même si ça ne passe pas par l'organisation d'un parti ou par une organisation nationale. Et je constate que dans les 10 dernières années, le mouvement a pris l'importance qu'on pouvait lui souhaiter. Naturellement, il reste encore hétérogène, un peu chaotique. Il n'a pas encore la forme, l'organisation, le discours qu'il devrait avoir. Mais c'est en chemin. Et en tout cas, je crois que c'est la seule force décisive pour l'avenir. C'est la seule force qui fera plier, qui déjà contraint les grandes organisations hégémoniques du monde. Je l'ai cité tout à l'heure en citant Ramonet lui-même, c'est pas le FMI, l'OCDE, le G8, etc., etc. Je crois que les grands rassemblements de Porto Alegre, de Bombay, etc., annoncent cette montée en puissance de l'altermondialisme, dont je crois qu'elle sera décisive pour l'avenir. Vous savez, depuis qu'on parle de mondialisation, il n'y a jamais eu, en chiffre absolu, aujourd'hui, il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité autant d'hommes et de femmes crevant de faim et de soif, n'ayant pas de travail, étant soumis à des traitements dont la violence fait peur. Donc voilà, tout cela me révolte. Ça me révolte dans mon pays, ça me révolte en Europe, en tant qu'Européen. Puis je ne suis pas seulement Européen, je suis Africain. Hein. Je suis Algérien d'origine. Hein. Ça me révolte dans tous les continents. Et voilà, mon travail, ce que vous appelez mon travail, d'intellectuel retiré, est un travail qui concerne toutes ces choses-là. Dans les séminaires que je fais, je fais des séminaires sur la souveraineté, je fais des séminaires sur le pardon, sur l'hospitalité, qui sont autant de thèmes qui sont, connexes de ceux que tout le monde traite aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et puis je voulais saluer le monde diplomatique, dont je considère que c'est un journal absolument exceptionnel, depuis très longtemps, hein, et je voulais leur dire ma reconnaissance, voilà, de lecteur.
Voilà, Jacques Derrida, une autre voix, une autre figure de, appelons ça, l'altermondialisme. En effet, Tony Negri, l'Italien Tony Negri, ex-dirigeant du groupe Pouvoir Ouvrier, condamné à 34 années de prison pour insurrection armée contre l'État, qui a longuement vécu en France où il a enseigné la philosophie avant de rentrer en Italie et d'y purger encore une 6 années de prison. C'est là qu'on l'avait rencontré, vous vous souvenez, il y a 2-3 ans à Rome. Tout ça, c'est fini maintenant. Il a tourné la page. Il est l'auteur d'un livre fameux qui a eu beaucoup de succès, Empire, avec Michael Hart. Et il était présent donc samedi pour les 50 ans du Duplo. Tony Negri, on célèbre aujourd'hui le 50e anniversaire de la création du monde diplomatique. Et le thème, c'est la voix de la résistance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous révolte le plus ?
Bon, écoute, c'est trop facile à répondre, non? C'est la guerre d'Irak, c'est la politique américaine, et pas seulement américaine, aussi anglaise et italienne. C'est ma révolte dans le sens que il y a vraiment un retour vraiment des vieilles techniques, via des vieilles pensées impérialistes qui sont tellement importants qu'il devient centraux, non, dans la tête de ces gens-là, et comme ça. C'est-à-dire, ici, un concept d'empire qui est complètement aplati, non, sur un concept de guerre. Et ça, c'est la chose qui me révolte, vraiment. C'est-à-dire, le mouvement, la résistance ne sont pas contre la guerre seulement, mais sont contre la guerre du néolibéralisme. Le néolibéralisme est une idéologie capitaliste et correspond à des intérêts qui sont des intérêts capitalistes extrêmement durs, extrêmement forts. C'est un essai de privatisation, non, de la vie, ce qui est en train de se passer. Et la guerre est l'ensemble, la forme dans laquelle cette exploitation est en train de se déterminer. Et la guerre américaine est une guerre qui n'a plus rien à faire avec la géopolitique, et une guerre qui a à faire avec ce que sont les intérêts et l'organisation, la hiérarchie des intérêts américains. Ça, c'est la guerre, désormais. La guerre, c'est une grande opération de police. C'est une opération de construction de hiérarchie. C'est seulement la résistance qui peut la démystifier, montrer qu'est-ce que c'est.
Alors une autre figure de la résistance, cette fois-ci, c'est pas une résistance par les mots, c'est un véritable résistant, c'est Raymond Aubrac, célèbre Raymond Aubrac, rentré en résistance aux côtés d'Emmanuel Dastier de la Vigerie. Il va diriger le réseau Libération Sud, il est arrêté à Caluire en 43, en même temps que Jean Moulin. Il y a évidemment sa femme, quand on dit Raymond Aubrac, on dit Lucie Aubrac, et ils sont des grandes figures de la résistance. Ils ont participé. Raymond a participé à l'élaboration du programme du Conseil national de la résistance, dont nous avons parlé il y a pas si longtemps. Il y a un livre où il a raconté sa vie, ça s'appelle Où la mémoire s'attarde, chez Odile Jacob en 1996. Et bien, il était là, Raymond Aubrac, samedi au Palais des Sports.
Écoutez, dans une certaine mesure, on peut dire qu'il y a une parenté entre ce qu'a été la résistance et la démarche globale du monde diplomatique. Finalement, la résistance, ça peut se considérer comme une lutte contre les injustices. Ils ont ça en commun. Évidemment, la résistance avait un côté plus optimiste que le monde diplomatique, mais on peut pas être très optimiste quand on étale une fois par mois les injustices de tous les continents.
Raymond Aubrac, pourquoi vous étiez plus optimiste, vous, dans la résistance, c'est-à-dire dans le maquis, je rappelle?
Si on n'avait pas été optimiste, on ne serait pas embarqué dans cette aventure. On aurait conclu qu'il n'y avait rien à faire. Or, les gens qui ont fait de la résistance, ils ont tous pensé qu'il y avait quelque chose à faire. C'était une gageure. Quand l'occupation est arrivée, il y avait dans la résistance des communistes qui étaient dans l'illégalité depuis 1939, et puis il y avait des socialistes, il y avait des radicaux, il y avait des modérés. Il y avait même de temps en temps des royalistes. Dans le programme du CNR, il y avait tout le monde, toutes les sensibilités, sauf les collabos, naturellement.
Et pour ceux qui ne connaissent pas, justement, comment on pourrait déterminer les grands axes de ce programme du CNR ?
Les grands axes expriment un petit peu les aspirations des résistants et les aspirations du peuple français et les points sur lesquels tout le monde était d'accord. À la libération, tout le monde était d'accord pour établir une sécurité sociale générale, pour assurer la protection des malades, des blessés, pour assurer des moyens de vivre à ceux qui perdaient leur travail, y compris pour des raisons de chômage. Je ne parle pas des nationalisations et de la dépendance de la presse. Et tout ça à un moment où le pays était très pauvre. La France était dévastée. Donc, on a eu un véritable bond en avant dans le domaine du progrès social, du progrès économique.
C'est-à-dire que c'est sur un champ de ruines qu'on a essayé d'établir un programme qui, normalement, devrait être impossible.
On a fixé les axes de ce qu'on jugeait possible et qu'on a en grande partie réalisé. Alors maintenant, 60 ans après, notre pays est 10 fois plus riche, probablement. Il a heureusement soigné une grande partie de ses ruines. Et il est difficile d'admettre qu'on marche, qu'on régresse, qu'on reparte en arrière et qu'on perde un certain nombre de ses acquis sociaux. Alors, les résistants qui ont vécu cette période, et beaucoup de gens, heureusement, avec eux, ne trouvent pas ça tolérable. C'est un problème de volonté politique, c'est clair et évident. En plus, on est obligé de constater que le pouvoir, une grande partie du pouvoir réel, n'appartient plus aux électeurs et à l'opinion, il appartient pour le moment à un certain nombre de puissances économiques et de puissances financières qui conviendrait de remettre à leur place, comme on l'a fait en 1944. Vous savez, un certain nombre des vieux camarades survivants vont dans les écoles. C'est mon cas. j'y vais quand même deux ou trois fois par mois. Il y a trois jours, j'étais à Saint-Flour, devant 185 élèves de troisième. Les jeunes s'intéressent. Ils s'intéressent et leurs centres d'intérêt ont changé depuis une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, les jeunes, dont vous étiez probablement, s'intéressaient aux coups, aux combats, aux embuscades, à tout ce qui était style Far West un peu.
Au fait de guerre.
Au fait de guerre, c'est ça. Et bien maintenant, ils nous posent des questions, même les jeunes de 3e, les gosses de 14, 15 ans, sur les motivations. Ils demandent pourquoi avez-vous fait ça, pourquoi êtes-vous resté quand c'est devenu plus grave. Et quand on parle avec eux, et quand on leur demande pourquoi ils posent ces questions, ils répondent tranquillement, mais pour nous, l'avenir est compliqué. On ne sait pas très bien ce qui va nous arriver. C'est pas tellement facile d'être jeune en 2004. C'est beaucoup plus difficile que d'être jeune en 1944 ou 45. Et alors, ils ont une inquiétude. On leur assène constamment la menace du chômage, la nécessité d'avoir de l'argent. On crée chez eux tout un tas de besoins dont ils reconnaissent volontiers de temps en temps qu'ils sont faux et qu'ils sont superflus. Et il n'y a pas de programme mobilisateur pour les jeunes. Et ça leur manque. Ça leur manque, c'est la raison pour laquelle ils veulent savoir ce qui s'est passé, ils veulent savoir ce que les jeunes à cette époque-là avaient en tête, pourquoi ils vivaient, pourquoi éventuellement ils combattaient, et ça leur manque.
C'est du blague et tu es. La politique américaine, Africa, ouais, c'est du blague et tu es. Ils nous vendent les armes pendant que nous nous battons, et puis nos richesses. Et c'est des êtres surpris de voir l'Afrique toujours en guerre. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont ruiné le Gabon. Ils ont brûlé Kinshasa. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique américaine-Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Ils cautionnent la dictature, tout ça pour nous affamer. Ils pillent nos richesses pour nous enterrer vivants. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont brûlé Kinshasa, ils ont brûlé Rwanda. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique américaine-Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Blague et tu es. Blague et tu es. Ils veulent nous blague et tu es. Oh, ils se réveillent beau.
Alors moi c'est Fatima.
Toi ?
Alors moi c'est Adil.
Et moi c'est Mounir.
Vous faites quoi dans la vie ?
En fait moi je viens de terminer mes études là. Et en fait nous si on est là c'est parce que aussi on est des lecteurs du monde diplomatique. Et on s'est dit que c'était bien aussi de venir.
T'as quel âge toi ?
J'ai 27 ans. Donc on s'est dit que c'est bien de venir les écouter. Ça changera de les lire un petit peu. Et puis en même temps, vu quand on a vu la panel d'artistes qui allait être présent, on s'est dit c'est
une pierre de coup.
Voilà, une pierre de coup ouais. En fait. Bah, on n'est pas déçus, c'était sympa.
Vous partez là ?
Ouais, on va pas tarder. Ouais.
Bah nous, on n'a pas la chance d'être parisiens, donc on est content.
Tu viens d'où ? Tu viens d'où toi ?
Plutôt, donc moi de Valenciennes.
Valenciennes, dans le nord ?
Dans le nord, tout à fait. Ouais. Là où le chômage est en train d'avancer de plus belle. Donc, et puis, bah, c'est notre manière de résister aussi à nous, de venir ici passer une partie de la journée avec nos amis du monde diplomatique. Et puis, c'est en même
tu fais quoi toi dans la vie, toi ?
Alors moi, je viens de terminer un DESS en droit, fiscalité immobilière. Et j'ai tout le temps pas de travail. Donc, c'est aussi une occasion de venir crier sa haine contre la discrimination à toutes les échelles. Et on sait qu'on peut, on peut s'appuyer sur le monde diplomatique et les journaux alternatifs comme Politis et tous les médias alternatifs qui commencent à naître en France, en Europe et dans le monde. afin de pouvoir dénoncer ce qu'on ne peut pas dénoncer dans les médias officiels, TF1, France 2, pour ne pas les citer, et Le Monde, qui est soi-disant le journal de référence, mais qui en réalité est tenu par la finance. Donc,
voilà. Si vous, je vous demandais, votre principale révolte aujourd'hui, c'est quoi ?
Ben, moi, je dirais que ce qui me révolte, ce sont les inégalités sociales au plan international. Un chiffre, hein, 20% des gens détiennent 80% des richesses mondiales. L'écart nord-sud, et ce qui me révolte, c'est Arnaud Lagardère, c'est Serge Dassault, c'est Jean-Marie Messier, c'est tous ces salopards, hein, je suis désolé, je parle crûment, qui justement s'accaparent les richesses de, hein, qui devraient être redistribuées à tous.
On va sur les alentours de Valenciennes, hein, c'est facilement... On a même des villes où il y a 3 chômeurs sur 4.
Comment vous avez découvert le diplôme, le monde diplomatique ?
Alors moi, le monde diplomatique, je l'ai découvert, c'est mon frère aîné qui me l'a glissé sous la main la première fois.
Et puis je m'informe via les guignols de l'info, parce que pour moi c'est de la vraie info, et les guignols c'est sur TF1, c'est Pernod, c'est PPDA. Ce qu'on se rend compte, c'est que le monde diplomatique, le canard enchaîné et les guignols de l'info sont vraiment les 3 médias, on va dire, qui aujourd'hui, voilà, et qui aujourd'hui n'ont pas peur de s'exprimer.
Merci beaucoup. Merci à vous. Je vois que tout continue bien se passer. Si ça va pour vous, ça va pour nous. Et celui que nous allons recevoir maintenant, il fait penser à ceux qui sont toujours en quête du savoir, à pousser le plus loin possible les frontières du savoir. En tant que musicien, pendant de longues années, il a exercé comme musicien dans les studios. Il a vécu la révolution du jazz, la révolution de la musique contemporaine. Mais il est resté comme sur un sentiment d'insatisfaction. Il est retourné dans le pays profond pour réinventer, refaire sa révolution musicale. C'est monsieur Bernard Luba, créateur de la compagnie Luba.
C'est pareil. Hein. C'est un peu comme moi. Ça fait longtemps que je débute. Je suis un interminable du spectacle. Alors, le théâtre est grec, le spectacle est romain, le cinéma est américain, la musique est industrielle. La musique est une marchandise. Les artistes d'élevage pullulent à l'étalage et les artistes sauvages résistent à l'abattage. La table t'écoute. Esprit, es-tu là ? Esprit ou est-ce libre ?
Bernard Luba, puisqu'il est question de résistance, à quoi avez-vous envie de résister, vous, aujourd'hui ?
Au conformisme, à l'art pompier de la vente, à tout ce qui... à toutes les musiques qui pullulent partout, qui calfeutrent tout, qui remplissent tous les silences, tous les vides, il y en a marre. Voilà. Par exemple, la musique est devenue radioactive.
Ouais.
Voilà, mais vite un peu d'écologie, un peu d'air. Déconstruire un petit peu tout ça parce que ça devient du béton armé.
Donc votre révolte aujourd'hui, ça,
ben, c'est par où,
sur quoi ?
C'est par où ? C'est par l'art. L'art, voilà ce gros mot. Voilà, ce gros mot, l'art. l'art de faire, l'art d'être, l'art l'art de s'inventer, l'art de se vivre, l'art de partager, d'échanger, cet échange qui nous change.
Donc vous êtes un lecteur du diplôme?
Oui, bien sûr, oui. Oui, depuis longtemps, depuis toujours, enfin depuis je sais plus quand, mais depuis très longtemps. Ouais. Voilà, non, oui, c'est une réflexion qui a sa place, une grande place. Une place de pensée.
De pensée pas unique.
Non. Aujourd'hui, c'est plutôt la pensée prise unique.
Allez, je m'en vais. Le bonheur à tout prix.
Voilà, ouais, n'importe quoi. Oui. Bon, mais vive je sais pas quoi là, en ce moment. Bon, mais ça c'est pas en ce moment, c'est peut-être la fin de ce moment dont je parle. On dirait que le doute redevient aussi l'espoir. Siècle de civilisation. L'âge des cavernes, l'âge des casernes, le gothique flambé.
Voilà Bernard Dubas, donc c'était samedi à Paris à l'occasion du 50e anniversaire du Monde Diplomatique. Il y a d'autres invités qu'on aimerait vous faire entendre, on le fera demain ou dans les jours prochains, notamment Étienne Balibar, Régis Debray, et puis La Rumeur, c'est un groupe formidable, La Rumeur, et les artistes de La Rumeur sont des gens tout à fait intéressants. On était très contents de les rencontrer et on fera une émission probablement avec eux, ou des extraits au moins dans les jours qui viennent. Merci à tous, merci à Vladimir Cagnolari qui nous a donné des sons très précieux. Merci évidemment à l'équipe du Monde Diplomatique. Je rappelle donc encore une fois que notre amie Esther Benbassa sera ce soir dans l'excellente émission de notre consoeur Kathleen Levin à 20h10 dans l'humeur vagabonde que vous connaissez bien, et elle parlera d'un tas de choses et notamment de son bouquin La République face à ses minorités dont j'ai parlé tout à l'heure en commençant, aux éditions Mille et une Nuits, et elle parlera de cette journée organisée à la Sorbonne et à l'Institut du Monde Arabe autour du thème Juifs et musulmans, une histoire partagée, un dialogue à construire. Et vous aurez plus d'informations sur en allant sur franceinter.com, franceinter tout attaché .com. Technique aujourd'hui, Clotilde Thomas et Pascal Baldassari, Coyenne Guyenne, Christophe Humbert et Pascal Pascariello, c'est l'équipe de La Basse J'y suis, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et générale. Je rappelle le numéro du répondeur de La Basse J'y suis, c'est le 01 56 40 37 37, et maintenant, la réclame.